BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi une, bienvenue à tous dans 60 minutes business à l'actualité. À la une de ce jeudi, c'est la saison, les grandes entreprises du CAC 40 publient leurs résultats, ils sont exubérants à la hausse comme à la baisse. Total Énergie affiche d'énormes bénéfices entre janvier et juin de cette année. Le groupe a fait autant que sur l'ensemble de l'année 2021. Que se passe-t-il en revanche chez Meta? Les résultats trimestriels ne sont pas bons pour Facebook. Mark Zuckerberg ne le nie pas, mais il entend très vite redresser la barre. Et puis la lutte contre l'inflation avant tout. Aux États-Unis, la Fed a augmenté ses taux directeurs pour la quatrième fois. Mais la Chine, elle, est l'un des pays les moins affectés par la hausse des prix à la consommation. Bien d'autres choses aussi d'ici midi et demi. Bienvenue à tous. Le groupe français Total Energy a engrangé un bénéfice net de 5 milliards 700 millions de dollars au deuxième trimestre. Ce dernier a plus que doublé sur un an, profitant à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Jean-Baptiste Huette, c'est un euphémisme de dire que les résultats sont excellents de Total.
Les résultats de Total Energy ont sans surprise été portés par la situation en Ukraine qui est tendu hein, à cause bien. Attendez, je crois que j'ai juste un petit problème de micro. Je ne sais pas si le micro fonctionne. J'ai là. Bon. Donc résultats de Total Energy sans surprise hein, qui sont portés par la situation en Ukraine, qui tend évidemment plus que jamais les marchés énergétiques. Sur le dernier trimestre, les prix du baril avoisinent en moyenne les 110 dollars. Explique Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy. Conséquence. Au deuxième trimestre, on atteint les 5,7 milliards de dollars de bénéfices nets. Ceci en dépit d'une nouvelle provision de 3,5 milliards qui a été passée par Total pour faire face à de potentielles sanctions internationales. Car Total Energy, je vous le rappelle, a toujours des participations dans le groupe russe Novatek qui gère les projets de Yamal ou de Arctic LNG. Dans le détail, on observe que les activités de raffinage ont été particulièrement profitables. Les volumes raffinés sont en hausse sensible de 47%. Sur le deuxième trimestre, avec des marges qui atteignent des niveaux qui sont très élevés. Les résultats du secteur raffinage chimie s'établissent à 2,7 milliards au deuxième trimestre. On était aux alentours de 500 millions l'an dernier, donc une très très forte hausse. Globalement, sur les 6 premiers mois, le résultat net ajusté de Total Energy, c'est d'ailleurs le chiffre à retenir, s'établit à 18,8 milliards de dollars. C'est quasiment 3 fois plus que l'an dernier à la même période. Du côté des perspectives, sans surprise, les prix du pétrole et du gaz devraient durablement rester à des niveaux élevés. On est là au mois de juillet aux alentours de 100 dollars le baril. Même chose pour les prix du gaz qui restent très tendus. L'hiver qui approche va pas mal inquiéter les marchés, ce qui laisse évidemment présager des résultats 2022 qui vont être exceptionnels. Et voilà une situation qui va immanquablement relancer les discussions sur la taxation des super-profits, une piste qui a pour l'instant été écartée par le gouvernement.
Rejetée par l'Assemblée nationale. Merci Jean-Baptiste Huette. Est-ce que les prix du baril, du gaz resteront-ils toujours élevés? Quelles prévisions? Faut-il s'attendre aussi sur le coût du raffinage? Philippe Chalmin, l'économiste, sera avec nous, l'auteur du rapport Cyclope, juste après le journal. Total Energy n'est pas le seul à avoir des profits records. Le bénéfice net du groupe Shell a été multiplié par 5 sur un an à 18 milliards de dollars. Non seulement grâce à la hausse des cours des hydrocarbures, le résultat de Shell profite aussi d'une reprise de provision de 4 milliards 300 millions de dollars, alors que la Major a revu à la hausse ses projections de prix du pétrole et de gaz à moyen et long terme. C'est l'une des plus lourdes pertes de l'histoire d'EDF, 5 milliards 300 millions d'euros au premier semestre. L'entreprise, qui va être renationalisée, met en avant la baisse de production d'énergie nucléaire liée au problème de corrosion d'une partie de ses réacteurs et le bouclier tarifaire imposé par l'État. Stellantis affiche, lui, une performance époustouflante malgré la baisse des ventes au niveau mondial. Le constructeur automobile enregistre une marge record. PSA Fiat Chrysler n'avait jamais atteint de tels niveaux, Pauline Ducamp.
Absolument, Thomas. Stellantis confirme sa très bonne situation financière. Je vous donne juste un chiffre. 14,1% de marge au premier semestre. C'est presque 2,5 points de plus que l'an dernier, qui était déjà une année exceptionnelle. Et c'est surtout pratiquement autant que les marques premium. Mercedes a annoncé hier une marge globale d'un peu plus de 15%, donc on se situe vraiment dans les mêmes eaux. Alors ces bons résultats, ils viennent notamment du marché américain, en fait, où le chiffre d'affaires comme le revenu opérationnel ont fortement progressé. Les marges outre-Atlantique sont même encore supérieures. On atteint au-dessus, on dépasse les 18%. Alors le constructeur assume aussi totalement sa stratégie pour gérer la pénurie de semi-conducteurs, augmenter ses prix pour les clients et privilégier les modèles qui font des marges, les modèles chez Jeep, les modèles chez Peugeot, mais aussi les véhicules électriques. Et Stellantis se montre assez confiant. Les consommateurs semblent accepter de payer plus cher pour ces véhicules vu le niveau de commandes en cours. Alors c'est tout le paradoxe en fait de l'industrie automobile en ce moment, et Stellantis en est vraiment un exemple parfait. Les ventes régressent sur certains marchés, notamment en Europe, mais les marges n'ont jamais été aussi importantes, en particulier pour les généralistes. Ces bons résultats permettent ainsi à Stellantis de rassurer les investisseurs face aux lourds investissements dans la transition écologique. Il y a un chiffre qui se montre particulièrement rassurant, c'est le free cash flow industriel du groupe, 5,3 milliards d'euros, de quoi assurer la pérenniser dans une période particulièrement chahutée pour le secteur.
Des volumes de vente en baisse, mais des prix en hausse. En revanche, ça ne réussit pas au groupe Renault, puisque Nissan affiche une chute de 59% du bénéfice net au premier trimestre, mais ses objectifs annuels restent inchangés. Merci Pauline. Autre résultat, Orange a enregistré un chiffre d'affaires stable au premier semestre à 21 milliards d'euros et confirme ses objectifs pour l'exercice en cours. D'ailleurs, notez que le numéro 2 du géant français des télécoms sera l'invité de BFM Business à 18h ce soir. Il ne s'agit que d'une baisse de 1%, mais elle n'en est pas moins historique. Pour la première fois depuis sa création, Meta, la maison mère de Facebook, voit son chiffre d'affaires diminuer ce trimestre sur fond de très forte concurrence des autres réseaux sociaux et des coupures budgétaires des annonceurs. Raphaël Couder.
La situation semble pire qu'il y a 3 mois, s'inquiète lui-même Mark Zuckerberg, le patron du géant des réseaux sociaux, ne peut que constater la mauvaise passe que traverse son groupe. Les revenus de Meta sont en baisse de 1% sur un an et son bénéfice chute pour le 3e trimestre consécutif. En cause, la faible demande publicitaire. Dans un contexte de flambée de l'inflation, les annonceurs multiplient les coupes budgétaires. Mais Meta subit aussi de plus en plus la concurrence d'autres plateformes comme TikTok. Le groupe américain a en effet copié ses derniers mois le format de vidéos courtes qui fait le succès du réseau social chinois. Mais il peine pour l'instant à monétiser ce type de contenu. Enfin, Meta souffre par ailleurs, comme Snapchat et Google, de la nouvelle politique de confidentialité d'Apple qui réduit leur capacité à personnaliser la publicité. Toutes ces difficultés vont contraindre le groupe à ralentir ses investissements, notamment dans le métaverse, et à réduire le rythme de ses embauches cette année.
Première assemblée générale pour Orpea depuis le scandale. Orpea soupçonné de maltraitance dans ses établissements pour personnes âgées, avec une grande opération nettoyage pour commencer. Une vingtaine de cadres vont être licenciés. La nomination d'un nouveau président du conseil, Guillaume Pépi, l'ancien dirigeant de la SNCF. La réunion des actionnaires a lieu à Paris avec l'espoir de faire peau neuve, Hélène Cornet.
Une quarantaine de résolutions et parmi elles, la nomination de 5 nouveaux membres au conseil d'administration, dont Guillaume Pépi qui devrait en assurer la présidence. Un renouvellement de grande ampleur, c'est assez rare, souligne un analyste, mais indispensable afin de restaurer la confiance du public et des actionnaires. L'image du groupe a été fortement mise à mal par la publication du livre Les Fossoyeurs, maltraitance, fraude comptable, infraction sur les contrats de travail. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Le groupe a dû renégocier avec ses banques pour faire face à des dépenses exceptionnelles. C'est l'heure de tourner la page et de restaurer un climat plus serein, avance un actionnaire. Une nouvelle stratégie devrait être annoncée à la rentrée. En attendant, le Conseil recommande de voter contre, cette fois, une autre résolution, celle qui concerne la rémunération variable de l'ancien directeur général. Plus de 560 000 euros au titre de l'année 2021. Le titre Orpea a perdu 75% de sa valeur depuis janvier.
La Banque centrale américaine a imposé un nouveau tour de vis et augmenté ses taux de 3/4 de point. Des nouvelles hausses d'ailleurs devraient suivre les prochains mois pour lutter contre l'inflation galopante aux États-Unis. Plus 9,1% au mois de juin sur un an. On attend désormais les chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre. Le PIB doit être dévoilé à 14h30, heure de Paris. Ce, alors que les risques de récession menacent plus que jamais les l'économie américaine. D'ailleurs, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, doit tenir une conférence de presse dans la soirée pour donner son avis sur l'état de la santé économique américaine au milieu de cette inflation mondiale, un véritable océan qui déborde tous les pays. Un seul affiche un taux insolent, c'est la Chine. 2,5% d'inflation seulement en mois de juin. La recette de la deuxième économie mondiale est jalousement gardée à Pékin. Sébastien Le Belzic.
Alors la première raison de ces bons résultats, hein, c'est d'abord l'absence en Chine d'un plan de relance massif pendant l'épidémie de coronavirus. Pékin n'a pas fait marcher la planche à billets, préférant sacrifier la croissance plutôt que subir de plein fouet la hausse des prix. L'autre raison aussi, c'est le poids que représente en Chine l'alimentation et l'habillement, qui pèsent plus lourd dans le panier de l'indice des prix que par exemple le transport et l'immobilier, comme aux États-Unis. On estime que la nourriture représente autour de 18% de l'IPC ici, contre 8% aux États-Unis. Et c'est justement sur l'alimentation que le gouvernement agit avec ces fameuses réserves stratégiques qui existent depuis les années 60 en Chine et qui permettent de compenser les hausses en libérant par exemple des stocks de viande ou de céréales. Par exemple, au début du mois, la Chine a pioché dans ses réserves de porc pour faire baisser les prix. Le porc, à lui tout seul, c'est 2,4% de l'IPC chinois. C'est donc une variable essentielle. Et à l'inverse, le transport, qui est très affecté par les prix de l'énergie, ne représente que 8,5% de l'IPC en Chine. C'est presque deux fois moins qu'aux États-Unis.
Et selon les médias d'État chinois, le ministre chinois de l'Industrie est visé par une enquête pour violation des lois et infraction à la discipline. Il n'était pas présent sur la liste des cadres du Parti communiste chinois réunis pour le 20e congrès, ce qui avait surpris. La Chine qui entend bien peser dans l'industrie aéronautique avec l'arrivée annoncée l'an prochain d'un nouvel acteur, un C-919 produit par l'industriel chinois Comac. Il sera un concurrent direct des Airbus A320 et peut-être une menace pour le duopole occidental Boeing-Airbus sur les courts et moyens courriers. Le directeur général d'Airbus, Guillaume Fauré, regarde de très près ce nouvel arrivant.
Alors, on a déjà eu dans le passé d'autres tentatives par d'autres constructeurs de venir bousculer la compétition Airbus-Boeing dans le segment des courts courriers, des courts et moyens courriers. Là, on a un nouvel acteur qui s'y met. C'est un acteur qu'on prend très au sérieux parce que c'est la Chine, c'est Comac qui a eu beaucoup d'efforts pour y arriver. Il leur faudra probablement quand même beaucoup de temps avant d'arriver à faire la montée en cadence, la fiabilisation de l'avion pour pouvoir... être un des trois joueurs, sachant qu'aujourd'hui c'est Boeing et Airbus qui dominent très largement. Mais on va voir comment ça se passe. Ils ont un marché chinois qui est un marché un peu captif où ils vont pouvoir commencer à vendre, à mettre en service ces avions. Et donc on va observer avec énormément d'attention ce qui se passe avec Comac.
Le directeur général d'Airbus, Guillaume Fauré, était l'invité de BFM Business ce matin avec Stéphane Pedrazzi. Airbus qui affichait d'ailleurs une baisse de 5% de son cours à la bourse de Paris après la révision à la baisse de ses prévisions de livraison d'avions pour l'année 2022. C'est sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et elle passe par la France. Mohamed Ben Salman dîne ce soir avec Emmanuel Macron, ce qui suscite la colère des défenseurs des droits de l'homme. Les démocraties occidentales aux abois cherchent gaz et pétrole à tout prix depuis le début de la guerre en Ukraine, jusqu'à donc réhabiliter le prince héritier saoudien infréquentable il y a peu suite à l'assassinat dont la CIA accuse directement MBS d'être le commanditaire. Le prince héritier d'Arabie Saoudite avait présenté en début de semaine les nouveaux plans pour une mégapole, la mégapole du futur, Neom, une ville utopique et futuriste. Étienne Henry.
Une ville de la taille de la Bretagne au bord de la mer Rouge. MBS décrit une ville utopique, sans voiture, en phase avec les objectifs du pays d'atteindre la neutralité carbone en 2060. Le projet le plus fou, The Line, deux gratte-ciels parallèles de 500 mètres de haut, 200 mètres de large et 170 km de long, où les maisons, les parcs et les écoles sont superposés dans un microclimat tempéré. Ce projet pharaonique s'inscrit dans le plan Vision 2030 du Royaume. Neom doit permettre au pays de sortir de sa dépendance au pétrole, en attirant de nouveaux investisseurs étrangers. Une population occidentale qui doit être le moteur de la croissance démographique du pays, un objectif majeur pour MBS. Alors que le budget est estimé à 500 milliards de dollars, le prince héritier a annoncé la création d'un fonds d'investissement de 80 milliards de dollars. Le reste sera financé par le fonds souverain saoudien et par l'introduction en bourse de Neom prévue en 2024. Une fois le financement bouclé, il faudra tout de même trouver les 1,5 million d'habitants. espérée à l'horizon 2030.
Mohamed Ben Salman sera donc reçu ce soir à l'Élysée après le retour d'Emmanuel Macron qui est en visite aujourd'hui en Guinée-Bissau. Une première pour un chef d'État français. Midi 15 sur BFM Business, on jette un œil à la bourse. Retrouver Odd Kersulec, sans doute noyé sous cette pluie de résultats qui ne cesse de tomber depuis ces derniers jours. Ce matin en particulier, Odd, la mi-journée, tout de même le CAC 40 fatigue un peu.
Eh oui, on avait ouvert en hausse ce matin et puis ça s'est estompé. On est maintenant à moins 0,09% sur le CAC 40, 6250 points, moins 0,16% sur l'Eurostock 50 et même moins 0,3% du côté de Francfort. Alors peut-être qu'on relativise hein, ce que nous a dit la Fed hier. Hier, on avait pensé qu'elle avait été rassurante sur les prochaines hausses de taux. Et aujourd'hui, on a un petit peu un avis différent. Il y avait déjà eu cet effet là hein, au lendemain de la réunion du 15 juin. Peut-être qu'on appréhende aussi l'ouverture de Wall Street tout à l'heure et c'est avec cet arbitrage qui sera fait sur Meta qui pour la première fois a annoncé une baisse de ses revenus trimestriels et qui pour l'instant perd du terrain en échange après bourse. Et puis on a aussi évidemment cette flopée de résultats arbitrés, alors quand même beaucoup sont meilleurs qu'attendus. On a de belles variations, alors à la hausse comme à la baisse hein, c'est pour ça que finalement ça s'équilibre sur l'indice. Alors on va commencer par ceux qui réagissent à la hausse. La plus forte hausse, c'est chez Schneider Electric, 4,3%, 132 euros. Alors, le premier semestre a été supérieur aux attentes et d'ailleurs, ça entraîne un relèvement d'objectifs pour l'année. Voilà qui est salué. Stellantis, évidemment, plus 3,1%, 13,33 €, 8 milliards d'euros de bénéfices et puis cette marge opérationnelle exceptionnelle. Hein. L'objectif, c'était de préserver les 10%. On a fait bien mieux à 14,1%. Et donc, on est à 13,33 € sur la valeur. ArcelorMittal aussi, plus 2,4%. Bénéfice en hausse de 25% sur le semestre. Attention, cela dit, au ralentissement au deuxième trimestre. Mais on a aussi une annonce ce matin d'un rachat d'un acteur brésilien de la sidérurgie. Et c'est peut-être ça qui est applaudi. Et puis un dernier pour la route, ST Microelectronics, plus 2,8% à 35,98 €, qui relève là aussi ses prévisions pour l'année. Et du côté des résultats qui sont un petit peu moins bien accueillis, c'est le cas d'Airbus, hein, moins 5,5% à 100,30 €, parce qu'Airbus nous a dit qu'il allait baisser sa production d'avions cette année, hein, passer de 720 à 700 avions, et voilà qui pèse un peu. Et puis Total Energy aussi, qui est du mauvais côté du tableau. Pourtant, après son bénéfice très élevé au deuxième trimestre, 5,5 milliards de dollars, 3 milliards de plus que l'an passé quand même à la même époque. Mais c'est mal vu par les investisseurs, moins 3,5% à 47,97 €.
Et Aude, encore beaucoup de publications où ça réagit ce matin?
Oui, notamment sur l'indice large. Alors sur l'indice large, on a deux très belles publications, très bien accueillies, notamment Ipsen, donc cette pharma, hein, cette biotech qui prend plus de 15%, 103,70 €. Là aussi, on a choisi de relever ses objectifs après avoir finalement été assez peu ambitieux sur les premières perspectives qui avaient été fixées. Puis Maison du Monde aussi, où c'est pas mal, hein, 7,2%, 9,86 €. Et puis si on regarde du côté où c'est un petit peu moins bien, on a Score qui perd 13%. Alors on a eu une rentabilité en baisse ce semestre, impactée par la guerre ou les catastrophes naturelles en hausse. Même si les primes d'assurance ont augmenté, bien les coûts aussi pour le réassureur qui enregistre donc une perte nette de 239 millions d'euros. Donc voilà qui est pénalisé par les marchés, moins 13%. Nexity aussi, parce que là l'immobilier de bureau a largement pesé sur les revenus de l'année, moins 10% pour la valeur Nexity, 23,64 €. JC Deco aussi, hein, malgré une croissance organique à plus de 30% ce deuxième trimestre, eh bien, les perspectives sont moins bonnes puisque on annonce seulement 7% pour l'objectif du troisième trimestre. Donc voilà qui est sanctionné. JC Deco perd 8,8%. Et enfin Accor, un groupe qui reste encore très prudent, même si on est revenu dans le vert ce semestre avec un résultat net positif, et eh bien c'est c'est encore assez difficile pour le milieu de l'hôtellerie, notamment à cause de la crise sanitaire qui peut ressurgir. Moins 7% pour Accor à 26,66 €. C'est le CAC qui perd en ce moment 0,07% à 6253 points.
Merci Aude Kersulek en direct d'Euronext pour BFM Business. Midi 20, dans un instant, Philippe Chalmin, l'économiste, auteur du rapport Cyclope, sera avec nous pour étudier les bonnes publications de Total et revenir bien sûr sur la visite de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, en France. Aujourd'hui, il dîne à l'Élysée. On se retrouve juste après ça.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi 22, bienvenue si vous nous rejoignez. Philippe Chalmin, bonjour. Philippe Chalmin, économiste, auteur du rapport Cyclope. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes avec nous?
Je vous entends, oui.
On vous entend parfaitement. Total Energy a publié des résultats stratosphériques sur l'ensemble de l'année 2021. Total a réalisé les plus importants résultats de son histoire, portés notamment par les prix du gaz et du pétrole. C'était attendu, mais ça reste quand même exceptionnel, Philippe.
Oui, mais à la limite, c'est assez logique, puisque... Je n'ai pas le détail, bien entendu, pour l'instant, des comptes de Total, mais Total est un producteur à la fois de pétrole et de gaz. Il ne vous a pas échappé que les prix mondiaux du pétrole et du gaz ont fortement augmenté. Et par ailleurs, Total a une grosse activité de trading international. Et là aussi, à l'image d'ailleurs de la plupart des autres grandes firmes de trading, modèle Glencore, Trafigura, etc., les résultats sont excellents. Donc, ceci n'a rien de surprenant, et ceci d'ailleurs devrait réjouir tous les Français que d'avoir une entreprise de cette taille et aussi profitable qui travaille à partir du sol français. Il y a, comme vous le savez, un certain nombre d'esprits chagrins qui trouvent ces profits inadmissibles et qui veulent les taxer. C'est leur opinion.
Philippe Chalmin, aujourd'hui, le pétrole, le Brent est à 108 $, le WTI américain à 99 $. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à ce que les prix du pétrole durent à des niveaux aussi élevés pendant longtemps?
Les prix actuels, quand je les compare par exemple au prix du gaz naturel, les prix actuels sont quand même relativement raisonnables. On a à l'heure actuelle, comme vous l'avez dit, un très fort différentiel entre le brut américain et le Brent, qui est un petit peu le brut international, ce qui fait d'ailleurs que les États-Unis battent des records en termes d'exportation de pétrole, assez curieusement. Je dirais qu'on est autour de 100-110 $ le baril. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je vous rappelle qu'il suffit simplement de regarder ce qu'avaient été les prix sur la période 2010-2014. On était aux alentours de 120 $ le baril. La situation est beaucoup plus inquiétante en ce qui concerne le gaz naturel, puisque sur le gaz naturel, si je le ramenais en équivalent en baril de pétrole, on serait entre 150 et 200 $. Donc le prix du gaz est, à mon sens, beaucoup plus inquiétant qu'un prix du baril qui, disons que dans la zone 100-110 $, c'est à peu près, comme je vous le disais, le prix d'équilibre que l'on avait atteint sur la période 2010-2014, à l'époque justement où l'Arabie Saoudite assurait l'équilibre du marché.
Et alors justement, l'Arabie Saoudite, on le disait, sans vouloir critiquer les bons résultats de Total, puisque à des prix du baril élevé s'ajoutent aussi les marges de raffinage. Aujourd'hui, tapis rouge pour Mohamed Ben Salman, le sulfureux prince saoudien. C'est lui que la CIA accuse d'avoir commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, dans des circonstances atroces. Aujourd'hui, il va dîner avec Emmanuel Macron. On le sait, les Européens souhaitent que l'Arabie Saoudite augmente sa production. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va lui dire, Mohamed Ben Salman?
Il dira probablement ce qu'il a dit à Joe Biden il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite n'a pas des marges de manœuvre énormes. Et ça, Emmanuel Macron le sait. Il l'avait dit, paraît-il, en aparté à Joe Biden. L'Arabie Saoudite n'a pas d'énormes marges de manœuvre. Et d'autre part, comme ils sont engagés avec la Russie à ne pas remplacer les tonnages russes que la Russie pourrait éventuellement ne pas exporter, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la part de l'Arabie Saoudite, en dehors de quelques bonnes paroles. Mais à la limite, aujourd'hui, le problème, je le répète, n'est pas le pétrole. Comme vous l'avez dit, le problème, notamment à la pompe, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, c'est beaucoup plus un problème de raffinage. C'est-à-dire que pendant tellement longtemps, les marges de raffinage ont été tellement faibles que les capacités de raffinage dans le monde occidental ont diminué. Nous avons exporté un petit peu, dans une certaine mesure, nos problèmes environnementaux ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes confrontés à des risques non pas de pénurie, mais de forte hausse, en particulier, par exemple, sur le diesel, pour lequel la Russie était un de nos gros fournisseurs.
Donc si en termes de production de pétrole, l'Arabie Saoudite n'accède pas aux demandes des Européens, on a quand même l'impression que la France, Paris, cherche à devenir incontournable en anticipant sans doute un automne un peu rigoureux sur le terme des énergies. Emmanuel Macron a reçu récemment le dirigeant des Émirats Arabes Unis, le Qatar également, le cher Israël. La France veut devenir incontournable avec les dirigeants du Golfe ?
Bah, disons que ça, nous sommes dans le champ de la réelle politique, donc de temps en temps il faut se boucher le nez, mais il faut être réaliste, tout le monde le fait. Joe Biden est allé beaucoup plus loin en allant à Canossa et en rencontrant Mohammed bin Salman, auquel il n'a pas serré la main, mais enfin c'était comme si c'était la même chose. Les États-Unis n'ont pas quand même à l'heure actuelle une diplomatie dans le Golfe d'une extraordinaire efficacité. Il est temps que d'une certaine manière, l'Europe gagne en indépendance, et je crois qu'Emmanuel Macron a raison de recevoir à la fois le dirigeant des Émirats, celui d'Arabie Saoudite. Il parle non seulement au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, et il faut dans une certaine manière arriver quand même à ce que ces pays du Golfe, non pas se détachent de la Russie, mais tiennent un petit peu mieux l'équilibre entre leurs intérêts, l'intérêt du marché du pétrole et pour l'instant ce qui est leur alliance russe. La Russie, dans ce grand jeu auquel se livrent les puissances depuis pas mal de temps dans le Golfe arabo-persique, la Russie avait quand même très très bien joué et de ce point de vue-là, elle a quand même dans cette zone des pays qui sont presque plus des alliés qu'ils ne le sont aujourd'hui des États-Unis et de l'Occident.
En un mot, aujourd'hui, à quel point les accords de l'OPEP lient l'Arabie Saoudite avec la Russie ?
Les accords de l'OPEP, alors c'est ce qu'on appelle OPEP+, c'est-à-dire les pays membres de l'OPEP, et puis une dizaine de pays qui sont de près ou de loin les alliés de la Russie. Ils ont pris des engagements, ils ont d'ailleurs décidé sur juillet et août d'augmenter leur quota de production, et donc en toute logique, le marché du pétrole aujourd'hui est plutôt bien approvisionné. On a d'ailleurs une situation dans laquelle le marché est ce qu'on appelle en backwardation, c'est-à-dire que le immédiat coûte plus cher que le pétrole à quelques mois, ce qui montre bien que sur le marché du pétrole, nous n'avons d'autant moins d'ailleurs de soucis d'approvisionnement. Il y a quand même quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, c'est le risque d'une récession. Le FMI a publié hier des prévisions en baisse relativement forte quant à la croissance de l'économie mondiale. Mais il faut bien se rendre compte que si la croissance de l'économie mondiale est plus faible, si même nous avons une récession aux États-Unis, en Europe, etc., ceci se retrouvera dans la consommation d'énergie, donc dans la demande de pétrole. Et c'est probablement ça qui risque de peser sur le marché du pétrole dans les mois à venir.
Philippe Chalmin, économiste, auteur du rapport Cyclope, merci d'être intervenu sur BFM Business. Midi 31, dans un instant, le rappel des titres. Et puis après, nos experts, nos recruteurs, nos reportages, les meilleurs moments de BFM Business avec vous. À tout de suite. Midi 32 à la une de l'actualité de ce jeudi. Le groupe français Total Energy engrange un bénéfice net record, 5 milliards 700 millions de dollars au deuxième trimestre. Ce rien a plus que doublé en un an, profitant à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz. Sur le premier semestre, Total a gagné autant que sur toute l'année 2021. Total Energy n'est pas le seul à voir ses profits bondir. Le bénéfice net du groupe Shell a été multiplié par 5 sur un an à 18 milliards de dollars. C'est l'une des plus lourdes pertes de l'histoire d'EDF. 5 milliards 300 millions d'euros au premier semestre. L'entreprise qui va être renationalisée met en avant la baisse de production d'énergie nucléaire liée aux problèmes de corrosion sur ses réacteurs. Autre résultat, Orange a enregistré un chiffre d'affaires stable au premier semestre de cette année, 21 milliards d'euros, et confirme ses objectifs pour l'exercice en cours. Le numéro 2 du groupe Télécom sera l'invité de BFM Business ce soir à 18h. Une première assemblée générale pour Orpea depuis le scandale et les révélations révélées sur ces maltraitances présumées sur les personnes âgées dans ces établissements et les EHPAD, avec une grande opération nettoyage prévue, le départ d'une vingtaine de cadres et la nomination, pour tourner la page, d'un nouveau président du conseil, Guillaume Pépi, l'ancien dirigeant de la SNCF. Avec la nouvelle hausse des taux de la Fed, on attend désormais les chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre. À 14h30 doit tomber le PIB américain, alors que les risques de récession menacent plus que jamais l'économie. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, tiendra une conférence de presse dans la soirée. Et puis c'est sa première visite en Europe. 4 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, elle passe par la France. Mohamed Ben Salman dîne ce soir avec Emmanuel Macron, suscitant la colère des droits de l'homme et ses défenseurs. Les démocraties occidentales sont aux abois. Elles cherchent gaz et pétrole à tout prix depuis le début de la guerre en Ukraine, jusqu'à donc réhabiliter le prince saoudien. La bourse de Paris, le CAC 40, est stable à la mi-journée, plus 0% à 6258 points, noyés au milieu de cette pluie de résultats dont on vous en a donné une partie aujourd'hui. Midi 34, BFM Business avec vous. Les meilleurs moments tout de suite, c'est parti.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
Comment mener notre entreprise?
C'est le méta-univers. D'accord. Et c'est pas le, effectivement, c'est les. Il va y en avoir plusieurs, il va y en avoir plein. Il y en a déjà plein aujourd'hui. Et c'est méta, ça veut dire que ça n'existe pas vraiment, d'accord. Et univers, il y en a plein. Et c'est quoi? C'est des univers virtuels, comme vous avez dit, des choses dans lesquelles on va pouvoir naviguer en général avec des avatars, pas forcément avec des lunettes de réalité virtuelle, mais c'est on va pouvoir faire des choses, interagir avec des gens virtuellement, interagir avec des stores, des magasins, interagir avec plein de choses.
La vie, quoi.
La vie virtuelle, mais enfin pas vraiment la vie, quoi.
Voilà.
Tel que le définit Zuckerberg, le CEO de Facebook, Meta, lui, il voudrait bien que ce soit la vie. Mais nous, on espère que c'est pas la vie.
C'est vertueux à nous vendre, en tout cas, au cours des prochaines années, voilà. Très vraisemblablement. Voilà.
Alors, le Bitcoin a 12 ans, figurez-vous, 2009. Est-ce qu'on peut donner un âge au métavers?
Métaverse, oui, c'est 92, en fait, le nom. Hein, donc, dans un roman de science-fiction, ça est apparu en 92. Donc, on décrivait ces interactions dans ce monde virtuel. Bon, c'est de la science-fiction à l'époque. Hein. C'est apparu en France pour la première fois, en fait. C'est un truc français, hein, donc ça a été implémenté par la France, par Canal+, en fait. C'était un truc qui s'appelait le Deuxième Monde.
Ça alors.
Et donc Canal+ a fait un machin qui était où il y avait des avatars qui se promenaient dans un monde 3D, Paris en 3D en fait. Et c'était la toute première fois que c'est arrivé, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que les gens n'ont pas bien compris ce que c'était, à quoi ça servait, parce qu'il n'y avait pas de, moyen de faire quoi que ce soit à part juste se promener dans ce truc-là, quoi. Ouais. Et ça a disparu au bout de 2-3 ans et ça a réapparu en Californie, évidemment, à la Silicon Valley, qui a repris ça, qui s'appelait Second Life.
Mais c'est ça, j'allais dire Second Life, voilà, c'est ça. Ouais.
Voilà, donc 2003, Second Life. Et là, c'était à peu près la même chose que l'idée de ce qui s'est passé dans le deuxième monde du truc de Canal+, mais il y avait une chose essentielle de plus, de l'argent. C'est-à-dire que on pouvait maintenant acheter des trucs, alors des trucs virtuels évidemment. Ouais. Donc on pouvait acheter des publicités déjà pour mettre sur des buildings, ces buildings virtuels. On pouvait acheter des buildings, on pouvait acheter des vêtements, des choses. Et donc nos avatars pouvaient se balader dans ce monde en achetant des trucs comme dans la vraie vie, sauf que une chemise valait 15 cents au lieu d'être $15. Voilà. Donc Second Life existe toujours,
oui.
Très très, enfin descendu. Mais bon. depuis quelques temps maintenant, on reparle à nouveau du Metaverse, parce que Meta, parce que Facebook a décidé qu'ils allaient y aller à fond. Mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Facebook, je dirais le divertissement, le Metaverse de divertissement.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup d'autres Metaverse qui sont intéressants pour le business, justement.
Lorraine.
On va y venir. Vous allez nous expliciter le lien entre le Metaverse et le Web.3. On sait que ce sont des territoires un peu en friche. Certains doutent de l'intérêt. On va revenir sur l'intérêt économique. Mais en tout cas, il y a un truc qui... Il y a des gens qui n'en doutent pas, c'est les financiers, si je puis dire. Follow the money, c'est l'expression de nos confrères de l'Express. André Senorovitz, qui est un gros fonds de la Silicon Valley, vous connaissez bien, vient de closer un fonds de 4,5 milliards dédié au métavers, entre autres. Est-ce que ce flux d'argent qui va vers cet univers confirme qu'il y a vraiment des intérêts? Et bien on sûr. Va y venir après.
Voilà, bon, le fonds de 4 milliards, en fait, c'est pas beaucoup. Il faut réaliser que déjà les boîtes comme Facebook, comme beaucoup de boîtes de jeux ont déjà dépensé des milliards, d'accord, 1,5 milliard pour Facebook, 1 milliard pour les boîtes de jeux, chacune des boîtes de jeux. Et puis Microsoft vient de dépenser 67 milliards, juste ou 69 milliards, pardon, juste pour acheter une boîte de jeux pour ces briques métaverses.
Ouais.
Donc c'est énorme, effectivement. Donc il y a de l'intérêt business, ça c'est clair.
Ce sont ces investissements qui vont s'amplifier, s'accélérer dans les prochaines années de la part de tout à chacun. Enfin voilà, comment ça va.
Bien sûr, parce que bon, là c'est le balbutiement.
Hein. C'est le balbutiement, voilà.
On va voir donc ces trucs se développer. On va voir qu'on va pouvoir effectivement faire du business. On va pouvoir faire des échanges dans ces mondes. Et les échanges vont être simplifiés dans le sens où, on a vu avec la pandémie que on pouvait maintenant communiquer facilement via virtuellement, donc ça va être évident dans nos relations maintenant dans ces métavers, quoi.
Bon, on va aller sur quelques-unes quand même des questions d'auditeurs, parce qu'elles sont nombreuses, là des réactions. On nous demande quelles sont les opportunités, les activités déjà présentes dans le métavers.
Ouais. Aujourd'hui, on va parler du côté business, pas du côté social, d'accord, ou asocial plutôt, parce que moi je considère que c'est asocial, ces réseaux sociaux. Mais bon, donc dans le côté business, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est tout ce qui est simulation, en fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ces mondes-là, on les recrée, donc on recrée des trucs, et on essaye de faire en sorte que ça colle au maximum à la réalité. Et il y a des choses qui se sont passées déjà récemment. Par exemple, pour la mise au point des vaccins, certains des vaccins ont été mis au point dans le métavers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Ça veut dire quoi? Oui, je veux savoir.
C'est-à-dire qu'on a fait des simulations de combinaisons de molécules, de machins et tout ça, pour pouvoir voir comment ça aurait réagi dans le monde réel alors qu'on était dans le monde virtuel. Donc ça, c'est des genres de trucs intéressants. Et par exemple, on a un acteur français encore là qui est très présent, c'est Dassault Systèmes.
Ouais.
Dassault Systèmes a mis au point les vaccins, a aidé à mettre au point les vaccins grâce à ces simulations dans ces mondes virtuels. Alors, on appelle ça les jumeaux numériques.
C'est incroyable.
Mais les jumeaux numériques, c'est pas autre chose que du métavers.
Ouais. Lorraine.
Bon, on a quelques témoignages. On a d'abord Loé qui nous écrit sur LinkedIn et qui nous demande: pourrons-nous organiser des événements avec un nombre de spectateurs quasi infini en supprimant la contrainte physique?
Est-ce que c'est ça? Ça a commencé.
On a vu Jean-Michel Jarre avec des millions de spectateurs virtuels pour son truc de Notre-Dame. D'accord. Donc ça existe déjà. Donc effectivement, ça devient limité pour les artistes.
C'est une
vitrine absolument extraordinaire.
Autre question, puisqu'on parle du côté business du métavers, alors que le télétravail est devenu une norme, à quoi pourrait ressembler le travail dans le métavers et pourrait ressembler dans un futur très proche?
On a vu, donc justement, quand on parle de Facebook, ils ont fait une démonstration où on voit un bureau virtuel, où on voit chacun de nos avatars dans un contexte qui ressemble à un bureau, interagir, se regarder, pouvoir voir de chaque côté comment ça se passe. Bon, et donc ça simule un peu ces interactions qu'on n'a pas quand on est devant une caméra dans Zoom, par exemple. D'accord, donc ça va ressembler un peu à ça. Est-ce qu'on a vraiment envie que ça ressemble? Voilà, c'est exactement ce qu'on voit ici à l'écran. Ça va ressembler à des choses comme ça, un peu plus naturelles que ce qu'on a dans du Zoom. Mais c'est quand même que des avatars. On est quand même dans le monde presque du jeu vidéo. Mm-hmm. C'est pour ça d'ailleurs que les acteurs du jeu vidéo sont très très hauts aujourd'hui dans le métavers.
Il y a un sujet quand même dans tout ça. Ça fait plusieurs fois que vous évoquez le sujet de casque de réalité virtuelle. Benedict Evans, qui est un autre gros investisseur de la vallée, dit que la place du hardware n'est pas encore tout à fait trouvée. On a plusieurs auditeurs qui nous ont dit en substance: les casques de réalité virtuelle me filent la nausée au bout de 15 minutes, etc. Est-ce que sans résoudre ce problème technique, on va pouvoir quand même avoir une adoption disruption massive du métavers.
Oui, moi aussi, je suis malade de 15 secondes, hein, pas 15 minutes. Enfin, c'est insupportable. mais la vérité, c'est qu'on n'aura plus besoin de casque. La vérité, c'est qu'on va réussir à avoir des choses qui vont être beaucoup plus invasives ou intrusives ou pas, je ne sais pas, mais on va se retrouver avec ce métavers qui va être autour de nous. Et donc, on va réussir à avoir des hologrammes, des choses. Vous savez, les trucs à la Mélenchon. Hein, donc, on va se retrouver avec des hologrammes plutôt que d'être immergé, je sais pas comment si on dit ça, mais avec des casques.
Si, c'est immergé, c'est ça le
immergé.
Effectivement, ouais, c'est ça. Ouais. Incroyable.
Lorraine. Il y a Ayoub qui nous demande sur LinkedIn ou Instagram, je ne sais plus, est-ce que le métaverse va révolutionner l'éducation ?
Ben, j'espère bien, parce que c'est un des domaines qui est très très important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir justement des cours magistraux par les plus grands profs, par des gens intéressants qui vont venir sans avoir à se déplacer et à venir au fin fond de je sais pas où venir donner leur vision. Donc oui, ça va être pour l'éducation, c'est une opportunité, parce que c'est aussi une opportunité de montrer des choses d'une manière virtuelle, mais de montrer que c'est presque réel et de faire toucher presque à ceux à qui on va s'adresser ces choses-là.
On va pas l'école virtuelle avec tout ça quand même, le Julia.
Je pense pas, c'est qu'à la fin, moi, de toute façon, je pense pas que tout va être virtuel.
Oui.
C'est le rêve de Zuckerberg, mais je pense pas que c'est la vraie vie. Donc la vraie vie, ça va être un truc hybride.
Oui.
On va profiter de ces outils dès qu'on va pouvoir, dès qu'on va avoir besoin d'eux, mais la vraie vie, c'est quand même d'être ensemble.
Une réaction, c'est Gilles Fedac, le patron d'iExact, une start-up qu'on suit beaucoup à BFM Business, qui est dans les cryptos. Il nous dit, le métaverse s'annonce comme la prochaine évolution d'Internet, mais les Français sont réticents parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'utilité ou les usages. Donnez-nous un usage, peut-être que vous avez déjà adopté, vous, Luc, Julia, dans le métaverse.
Adopté, je ne suis pas sûr, mais je parlais de simulation. Dans le monde automobile dans lequel je suis aujourd'hui, il est évident qu'on va pouvoir faire, par exemple, des crash tests dans le métaverse. Ça va être beaucoup moins cher que de faire des crash tests en vrai, et on va pouvoir simuler tellement le monde, il va être tellement tel que le réel, que ces crash tests vont être tout aussi valides dans le métaverse que dans le monde réel.
Voilà, un exemple concret.
Un exemple concret parmi tant d'autres. Merci beaucoup. J'ai une dernière question très rapidement. Alors, on parle de toutes ces projections, ce que sera demain le monde, notre monde, avec l'apport du métaverse. C'est pour quand ? Est-ce qu'on va être surpris du fait que ces applications concrètes vont arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense, finalement ?
C'est hier, hein ? C'est déjà
arrivé. C'est hier, mais tout est relatif, bien sûr.
Quand je parlais d'assosystème avec les vaccins, c'était l'année dernière.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous, les meilleurs moments de l'année, la rediffusion de l'été après avoir parlé du métaverse avec Luc, Julia. On va désormais partir avec la start-up Office Riders, le monde du travail d'aujourd'hui. L'Office Riders s'est inspiré d'Airbnb pour louer des logements de particuliers aux entreprises. C'est un reportage de Justine Vassogne avec Olivier Mélan. Mais d'abord, les recruteurs, Lorraine Goumeau, recevait l'entreprise Kickmaker.
Chez Kickmaker, nous concevons et on industrialise des produits électroniques. Alors, on est d'ailleurs plutôt spécialisé du passage du prototype à la série. On travaille dans le matériel médical, dans les objets connectés, dans le consumer grand public et dans les engins de nouvelle mobilité. On bosse avec des startups comme Wizama sur un plateau audio connecté ou Bioserenity sur des dispositifs médicaux, avec des ETI comme Barracoda sur des tapis de bain connectés ou Exact Robotics sur de la robotique agricole, et des grands groupes comme Saint-Gobain sur des matériaux innovants ou L'Oréal dans la beauty tech.
Mais oui, vous avez raison de me reprendre, parce que le point clé, c'est justement de passer à l'échelle. C'est ça le problème que vous venez résoudre pour beaucoup de boîtes qui ont besoin de tester leurs produits à une échelle au-delà du prototype. Alors, vous avez cité quelques-uns de vos clients. Combien de projets vous avez réalisés depuis votre création en 2016?
Plus d'une centaine de produits qu'on a conçus et industrialisés sont aujourd'hui sur le marché.
Bon, alors, vous faites ça à Paris, pas très loin de chez nous, BFM, mais aussi à Lyon, à Nantes et en Chine, à Shenzhen. Vous êtes 180 et vous avez un plan de recrutement assez ambitieux pour les deux prochaines années, puisque vous cherchez 200 personnes, grosso modo. Dites-nous les postes à pourvoir.
Et bien, effectivement, on continue notre développement. Cette année, on a recruté à peu près 90 personnes et on vise à doubler la taille des équipes à peu près tous les ans. Donc, on va recruter 200 personnes sur les deux ans à venir. Principalement pour continuer notre développement dans les agences que vous avez citées, mais on prépare également notre internationalisation avec des ouvertures d'agences en Europe, en Suisse notamment, au Benelux prochainement, et puis les États-Unis, puisqu'on commence à bosser pas mal pour des boîtes américaines. Et les profils qu'on recrute, c'est avant tout des ingénieurs passionnés par leur métier, des gens qui utilisent leurs compétences professionnelles à titre personnel, vraiment qui appartiennent à ce monde des makers sur des métiers comme la mécanique, la mécatronique, l'électronique ou le software embarqué.
Bah oui, c'est autant de profils d'ingénieurs différents. Vous cherchez aussi, on imagine, des directeurs d'agence pour prendre la tête des quelques pays que vous avez cités.
Exactement, des directeurs d'agence, mais également des responsables techniques locaux pour vraiment renforcer notre leadership technique. On fait des choses de plus en plus compliquées, comme bosser avec Cyper, la branche d'Atos, sur les futurs du microprocesseur. Donc voilà, donc renforcer les équipes de leadership technique et puis également accompagnement commercial à toutes ces activités, donc des business developers et des account managers dans ces agences.
Qui est le profil type qui rejoint une agence comme la vôtre plutôt que de partir chez un client? Pourquoi on viendrait travailler dans une agence?
C'est une excellente question et je pense que l'attractivité Kickmaker, elle est vraiment sur sa spécialisation du passage du prototype à la série. On est vraiment dans le monde réel et chez Kickmaker, on bosse systématiquement sur ces phases-là, ces phases de scale-up qui sont très grisantes puisqu'on voit vraiment le fruit de son travail au quotidien et on est un peu moins happé par la suite du processus et la gestion de cycle de vie du produit.
Bon, je précise que vous recrutez aussi des sales et des recruteurs, recruteuses pour accompagner votre croissance. On sait l'importance de ces deux autres fonctions internes pour continuer à grossir.
Comment est-ce qu'on postule?
Alors, c'est très simple. Vous allez adresser votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran en français ou en anglais, recruitment@kickmaker.net. Kickmaker, je vous l'appelle pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, KICKMAKER.net.
BFM Business, 60 minutes business, la France qui bouge. BFM Business, les meilleurs moments de l'année, la France qui bouge. Justine Bassogne.
Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement de Paris, devant le quartier général d'Office Riders. Office Riders, c'est le Airbnb du bureau, du lieu de travail. Son modèle a été boosté par la crise sanitaire. On va voir ça. Dans le quartier général d'Office Riders, on peut arriver au travail en toboggan. Florian Delifer a créé l'entreprise en 2015. Le concept est tout simple, permettre aux entreprises de réserver des espaces de travail chez des particuliers.
Ça ressemble dans la forme à une marketplace collaborative comme Airbnb. Vous allez sur le site, vous allez pouvoir rapidement identifier un espace qui va correspondre à votre besoin, avec la localisation que vous souhaitez, avec le format que vous souhaitez, et vous allez pouvoir louer une journée, deux journées, des journées régulières selon votre besoin.
Sur le site d'Office Riders, on peut réserver un loft pour une réunion d'équipe de 20 personnes, un atelier d'artistes pour fêter un événement d'entreprise, mais aussi des appartements plus petits, autour de 40 mètres carrés par exemple, pour une séance de travail en petit comité. Patrick Barazzoni est le directeur général de SD Works, une société spécialisée dans les ressources humaines. Il a des bureaux à Biarritz et à la mais il a décidé de louer pour une journée un loft de 85 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris.
On a plein de salles de réunion, on a un espace aussi multifonctionnel, mais de temps en temps avec le management, c'est bien de sortir de ces bureaux pour penser différemment, pour penser à la stratégie de la société. Et puis des offices comme ça permettent d'avoir un peu plus de créativité, de liberté et d'avoir une autre ambiance et une autre gestion d'équipe.
Coût de la location, 780€ hors taxes en comptant le petit déjeuner et le goûter. Quand Office Riders est né, la première tâche de Florian Delifer a été de constituer son offre, trouver des appartements. Et pour cela, il a tout simplement contacté des propriétaires qui louaient déjà leurs biens sur Airbnb. Très vite, des centaines d'appartements parisiens sont listés sur le site d'Office Riders. Côté clients, ce sont surtout les start-up ou les départements innovation de certaines entreprises qui se laissent convaincre. Avant la crise sanitaire, le site comptait 20 000 utilisateurs. Aujourd'hui, leur nombre a doublé. De nombreuses entreprises du CAC 40, Total, Vinci ou L'Oréal, par exemple, font maintenant appel à Office Riders. Les usages ont changé.
Ce n'est pas seulement des boîtes qui ferment leurs bureaux, c'est aussi des sociétés qui vont diminuer leurs mètres carrés de siège, qui vont adopter le flex office, qui vont demander à une partie des collaborateurs de rester à la maison une partie du temps et qui vont, en complément de ces deux solutions, opter pour des tiers-lieux avec justement une hyper-flexibilité dans les formats, dans la localisation et dans la durée.
En 2022, 8 millions de transactions devraient être effectuées sur le site d'Office Riders. En 2021, c'était deux fois moins. Autre source de business, la location de ces espaces pour des influenceurs qui viennent y tourner leurs vidéos. Parmi eux, Squeezie ou encore McFly et Carlito. L'entreprise aujourd'hui présente à Paris, Lyon et Bordeaux veut maintenant partir à la conquête du reste de la France et de l'Europe. Ce sera dès l'année prochaine.
BFM Business, les meilleurs moments de l'année. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.